Il est midi et demi sur France Culture. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous débuterons ce journal avec un prix, celui de super-héros du climat. C'est aujourd'hui en effet qu'Emmanuel Macron doit se voir décerner le titre de champion de la Terre et de la planète à l'occasion de la deuxième édition du One Planet Summit qui devra également faire le point plus généralement sur les engagements financiers en faveur du climat. Décryptage avec Marie Vienno.
L'échange musclé sur l'Iran se poursuit à l'ONU.
Et le président américain Donald Trump, en quête d'alliés contre Téhéran, a convoqué une réunion inédite du Conseil de sécurité aujourd'hui au risque d'exposer au grand jour son propre isolement. Analyse à suivre de ce bras de fer avec Claude Guibal.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, un nouveau drame de l'immigration clandestine.
Hier, une jeune femme de 22 ans a été tuée, 3 autres personnes grièvement blessées dans des tirs de la marine marocaine contre une embarcation à moteur qui transportait des clandestins. Avec Sébastien Sabiron, de retour du Maroc, nous tâcherons de comprendre pourquoi et comment ce pays est devenu en quelques mois le principal point de départ des migrants qui cherchent à atteindre l'Europe.
En France, à présent, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a réduit aujourd'hui à 1 million d'euros au lieu de 2, la saisie pénale des subventions publiques allouées au Rassemblement National XFN.
Une saisie ordonnée dans le cadre de l'enquête sur les assistants parlementaires du parti au Parlement européen. Le parti a aussitôt décidé de saisir la Cour de cassation. Tous les détails avec Antoine Marette.
La chancellerie lance un nouvel appel à candidature pour la succession de François Molins au poste très prestigieux de procureur de Paris.
Et pourtant, au moins 3 candidats étaient déjà sur les rangs. Pourquoi? Élément de réponse avec Bénédicte Robin. Enfin, la confiance des ménages a de nouveau baissé au mois de septembre, atteignant son plus bas niveau depuis avril 2016. La faute à un regain de pessimisme sur le niveau de vie, nous dira Jean-Marc Chardon. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Il a été l'un des premiers à dénoncer la frénésie actuelle, la vitesse, l'accélération de ce monde. Un constat très pessimiste porté par son dernier essai, l'accélération. Aujourd'hui, il revient avec la solution. Elle tient en un mot, selon lui, on l'expliquera quand même. Résonance. Armut Rosa, sociologue et philosophe allemand, est l'invité de la deuxième partie de la grande table à partir de 12h55.
Merci et à tout à l'heure. À l'heure où le multilatéralisme n'a jamais été aussi peu au goût du jour, l'agenda international de cette semaine relèverait-il sinon de la provocation, à tout le moins d'un pari hasardeux? Depuis lundi, les 133 chefs d'État et de gouvernement sont réunis à New York pour la 73e Assemblée Générale des Nations Unies. À cela s'ajoute le sommet de la tuberculose, cette maladie infectieuse la plus mortelle au monde, sans oublier la 10e édition de la semaine sur le climat, également à New York. Et enfin, à partir d'aujourd'hui, le lancement pour la 2e année consécutive du One Planet Summit. En d'autres termes, face à la difficulté à mobiliser aujourd'hui un monde de plus en plus divisé, on se dit qu'organiser autant de réunions au sommet relève véritablement et plus que jamais de la gageure. Alors, s'agissant tout d'abord du One Planet Summit, l'objectif affiché pour cette année sera de faire le point sur les engagements pris l'an dernier. L'occasion aussi, accessoirement, de s'auto-congratuler un peu en attribuant le titre de champion de la Terre et de la planète à l'organisateur de la première édition, Emmanuel Macron. Mais pour ne pas céder à la facilité de rapprocher ces grands sommets de sommets d'hypocrisie, essayons de voir quels ont été depuis un an les résultats de l'action multilatérale, donc en faveur du climat. Marie Vienno, bonjour.
Bonjour.
Au-delà de savoir si Emmanuel Macron mérite bien son titre de super-héros du climat, quelles ont été depuis un an les avancées en faveur du financement climatique?
Alors, le financement climatique ou la finance verte, cela peut être 3 choses. Cela peut être de l'argent public qui sert à financer des projets verts comme la rénovation thermique par exemple ou les projets de recherche. Alors il n'existe pas de compteur qui permettrait d'évaluer si mondialement ces financements publics augmentent ou pas. Ce qu'on peut mesurer en revanche, ce sont les fonds débloqués par les banques de développement pour aider les pays déjà affectés par le changement climatique. Et là, nous dit-on, de 2016 à 2017, les financements sont en hausse de 23%. Il y a ensuite les financements publics privés et 100% privé. Ce sont ces financements-là qui sont à l'honneur avec le sommet qui ouvre aujourd'hui à New York. Alors, 12 engagements avaient été pris l'an dernier à Paris, j'en cite quelques-uns. Mobiliser la recherche en faveur du climat, révolution sectorielle vers une économie décarbonée, pour des transports sans pollution. Alors, pour chacun de ces engagements, il existe des myriades de projets et de financements et sans qu'on puisse donner un chiffre global, il semble y avoir de plus en plus de projets. Ce qui est plus facile et encore à mesurer, ce sont les obligations vertes. Par les obligations obligations, on finance des projets. Les obligations vertes sont censées financer des projets verts ou climato-compatibles. Là, si on regarde les chiffres, oui, ce marché augmente de 4% entre le premier semestre 2017 et le premier semestre 2018. Mais on part de très très bas. Sur 100 000 milliards d'obligations en circulation dans le monde, entre 350 et 1 450 milliards sont vertes. Et si je donne une fourchette aussi large, c'est qu'il n'y a toujours pas de définition de ce qu'est une obligation verte ou pas. L'Union européenne est en train de travailler à la mise en place d'un label vert pour la finance, mais ce sujet avance peu à l'échelle internationale. Or, tant qu'aucune définition claire n'existe, il y a une forte incertitude sur la capacité des financements verts à changer la donne, puisqu'on ne sait pas réellement s'ils sont verts.
Merci Marie Viennot. Alors concernant ces financements climatiques, l'association ATTAC a pour sa part calculé qu'au rythme actuel, il faudra 100 ans pour verdir la finance. Alors vous avez joint Marie l'un de ses porte-parole, Maxime Combes, économiste et auteur de « Sortons de l'âge des fossiles », manifeste pour la transition. On l'écoute.
Aujourd'hui, il peut y avoir des initiatives intéressantes prises par quelques multinationales ou par des acteurs privés et financiers. L'enjeu n'est pas qu'il y ait des initiatives éparses, mais bien de transformer profondément notre système économique et financier, de faire en sorte que les milliers de milliards de dollars qui sont présents sur les marchés financiers arrêtent de financer l'économie d'hier, cette économie qui a engendré la crise climatique et la perte de biodiversité et la crise écologique, et que donc ces milliers de milliards de dollars financent la transition écologique. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a de petits marchés verts qui se déploient. Le défi devant lequel nous nous trouvons est gigantesque. Effectivement, faire transiter l'ensemble de notre système économique financier pour le rendre climato-compatible, c'est pas quelque chose qu'on peut faire d'un coup de baguette magique ou en claquant des doigts. Et donc du coup, nous avons besoin de constance dans les engagements qui sont pris et de leur traduction en matière extrêmement concrète de politique économique. Et aujourd'hui, les chefs d'État, finalement, préfèrent se défausser sur le privé, s'auto-décerner des prix qui sont un petit peu ridicules de champion de la terre ou champion du climat, plutôt que de s'accorder sur des initiatives qui pourraient réellement transformer le système économique et financier dans lequel nous vivons.
Voilà, Maxime Combes, donc économiste et porte-parole également de l'association ATTAC. Alors toujours dans cet agenda international fourni de cette semaine, il est encore un rendez-vous que je ne vous ai pas mentionné. Ce mercredi a été proclamé par l'ONU journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Or, c'est aussi le jour que Donald Trump a opportunément choisi pour convoquer une réunion du Conseil de sécurité centrée sur l'Iran. En clair, le locataire de la Maison-Blanche entend faire de ce rendez-vous inédit un moment fort de sa campagne agressive contre Téhéran. Hier déjà, celui qui ne rate pourtant pas une occasion de dire tout le mal qu'il pense de l'organisation multilatérale avait appelé, je cite, « toutes les nations à isoler la dictature corrompue de la République islamique ». Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
En attendant de savoir si le président américain finira ou non par trouver des alliés dans sa croisade contre Téhéran, ce qui semble d'ores et déjà acquis, c'est que cette nouvelle journée à l'ONU sera l'occasion d'un nouvel échange, disons, musclé.
Musclé et même théâtral, hein. L'ONU transformée plus que jamais en grand théâtre où face à un Donald Trump en mode belliqueux et surexcité, eh bien l'Iran a choisi de répondre par l'ironie. C'était hier un entretien accordé à CNN lorsqu'on interroge Hassan Rouhani pour savoir s'il a effectivement demandé à rencontrer Donald Trump comme celui-ci n'a cessé de le répéter sur son compte Twitter. Eh bien le président iranien, d'ordinaire si froid, si impassible, se met à sourire.
Pas plus l'an dernier que cette année, nous n'avons sollicité de rencontre. Mais l'an dernier, les officiels américains nous ont demandé un entretien à 8 reprises. J'ai trouvé que ce n'était pas approprié, pas plus aujourd'hui. Une rencontre doit avoir lieu quand cela sert un objectif, quand cela est bénéfique pour les deux parties.
Ironique et clair, car pour Hassan Rouhani, toutes les discussions sur l'avenir de l'Iran doivent avoir lieu uniquement dans le cadre des Nations Unies et sur la base de l'accord sur le nucléaire conclu en 2015, cet accord dont les États-Unis se sont retirés avec fracas. En fait, en d'autres mots, l'Iran réclame du multilatéralisme, réclame le respect des engagements, tout ce que Donald Trump n'a eu de cesse de détruire hier dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies.
Merci Claude Guibal. Et puis j'ajoute que toujours à l'occasion de cette assemblée générale de l'ONU, le premier ministre japonais Shinzo Abe, lequel a longtemps prôné une ligne dure envers le régime nord-coréen, a lui assuré hier être prêt à prendre un nouveau départ et même rencontrer en face à face son homologue Kim Jong-un. En revanche, cette réunion ne portera pas sur la question de la dénucléarisation, mais sur un sujet particulièrement sensible pour l'opinion publique nippone, l'enlèvement de citoyens par la Corée du Nord dans les années 70 et 80. Pyongyang est accusé en effet d'avoir kidnappé des dizaines de citoyens japonais pour permettre aux espions du régime de se familiariser avec la culture et la langue japonaise. En refusant hier à l'Aquarius d'accoster au port de Marseille, au prétexte que celui de Malte était plus proche, la France, contrairement aux apparences, n'entendait pas fermer ses portes aux navires humanitaires, mais bien plutôt lui ouvrir celle de toute l'Europe. Une fois débarqués sur le petit archipel du centre de la Méditerranée, les 58 migrants seront en effet répartis dans 4 pays européens, la France, l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne, où quand dire non à l'Aquarius devient d'une certaine façon l'occasion de dire oui à une forme de crédibilité européenne. En revanche, la ministre française des Affaires européennes a, elle, déclaré ce matin que les ONG de l'Aquarius, qui demandent à la France de leur accorder un pavillon, devaient se tourner vers l'armateur du navire, en l'occurrence de nationalité allemande, afin de régler cette situation juridique compliquée. Quant aux damnés de la Terre, eh bien, ils restent plus que jamais, eux, les nouveaux maudits de la mer. Hier, la marine royale américaine a ouvert le feu sur une embarcation de migrants en Méditerranée qui refusait de répondre à ses sommations. Une jeune femme de 22 ans a succombé à ses blessures et 3 autres personnes sont toujours actuellement dans un état critique. Alors, il se trouve que le Maroc est devenu cet été le principal pays de départ des migrants qui cherchent à atteindre l'Europe, en particulier l'Espagne. Ces dernières semaines, le gouvernement marocain a donc décidé de repousser tous ces migrants loin des côtes, vers le sud, mais aussi le centre du pays, d'où des arrestations massives qui se multiplient et des refoulements visant à dissuader les candidats à l'exil. Sébastien Sabiron, bonjour.
Bonjour.
Vous revenez justement du Maroc, plus exactement. Vous étiez à Tanger la semaine dernière, un véritable cul-de-sac pour les candidats à l'exil.
Tanger, au bord du détroit de Gibraltar, 14 kilomètres seulement des côtes espagnoles et de ce rêve d'Europe que nourrissent les migrants. Njoya est camerounais, 23 ans, blessé à la cheville et au poignet, stigmate d'une arrestation musclée. Il vit dans un terrain vague près de Tanger.
4 fois, c'est que je suis dans la mer. Il ne peut pas compter, c'est que je n'ai pas encore touché l'eau. C'est que j'arrive au bord, il m'arrête, il me tape. Il prend tout le matériel, le moteur, le Zodiac. Dernièrement, on nous a arrêtés. On nous a tapés, on nous a amenés devant le commissaire et puis ils nous ont refoulés.
Interpellé sans ménagement, puis refoulé en bus jusqu'aux portes du désert, le plus souvent vers Tiznit, près de 900 km au sud de Tanger. Nina est ivoirienne, elle a 38 ans. Elle a fait l'expérience de ce refoulement 2 fois.
Je me suis retrouvée dans le bus de refoulement avec des enfants, des bébés, avec des femmes enceintes. Moi, je suis allée à Tiznit presque nue parce qu'ils ne m'ont pas laissé m'habiller. Ils nous ont donné un sandwich avec une demi-bouteille d'eau, c'est tout. Pendant tout ce trajet de plus de 12 heures de temps, j'ai failli même faire une crise dans le bus. Trop de chaleur, tout était fermé. Ils menottent même les femmes. Quelle est cette méchanceté ?
Au prix de grandes difficultés, Nina a pu revenir par ses propres moyens à Tanger. Depuis, elle ne sort plus de chez elle, un réduit de 6 mètres carrés en périphérie de la ville.
Je ne peux pas sortir, je ne peux rien faire. Il y a des journées que je passe sans manger parce que je ne peux pas aller au marché. J'ai peur d'être arrêtée et d'être encore expulsée. Quel que soit ce qui se passe, nous sommes quand même des humains.
Depuis juillet, jusqu'à 5000 migrants auraient été ainsi déplacés de force, selon les ONG, qui dénoncent une campagne de harcèlement visant les migrants subsahariens. Un moyen de faire pression sur l'Union européenne, selon Saïd Tbel de l'Association marocaine des droits humains.
C'est un coup médiatique du côté marocain pour avoir sa part du gâteau de cette politique sécuritaire européenne. Ça veut dire quoi ? Je joue le rôle du gendarme et j'ai envie que vous m'aidiez pour que je puisse jouer le rôle de gendarme. Deuxièmement, il n'y a aucune décision juridique qui explique un peu ces déplacements de personnes. C'est inhumain et ce sont des violations des droits élémentaires de la personne.
Et malgré les refoulements, malgré les violences, malgré le racket, aucun des migrants que nous avons pu rencontrer n'a renoncé à traverser la Méditerranée.
Alors le moins qu'on puisse dire, Sébastien, c'est que ce sujet est est particulièrement sensible au Maroc et d'ailleurs vous en avez vous-même fait l'expérience.
Effectivement, nous avons été interpellés par la police marocaine durant ce reportage avec ma consoeur Asna Belmeki. On était en train d'interviewer des migrants à Branès, un quartier populaire en périphérie de Tanger. Mon matériel de reportage a été saisi, nous avons été interrogés pendant près de 6 heures et puis j'ai été reconduit le soir même à l'aéroport puis expulsé du royaume par le premier vol le lendemain matin.
Et que vous reprochent exactement les autorités marocaines, Sébastien ?
Tout simplement d'avoir réalisé ce reportage sans autorisation. Il faut dire que les formulaires d'accréditation disponibles sur le site du ministère marocain de l'information et de la communication ne concernent que les correspondants étrangers installés au Maroc et les demandes de tournage ne s'appliquent qu'aux équipes de télévision. Encore faut-il que ces demandes de tournage soient accordées quand l'objet du reportage est précisé. Pour compléter le reportage, j'avais prévu d'interroger le Wali, le gouverneur de la région de Tanger sur cette problématique migratoire, mais il en a décidé autrement en prononçant mon expulsion. Je ne suis pas le premier journaliste à rencontrer ce type de difficultés au Maroc. L'an dernier, notamment, un reporter du Guardian a été expulsé alors qu'il couvrait le mouvement de contestation dans le RIF.
Merci Sébastien Sabiron. Il lui avait déjà fallu près de 6 mois pour mettre sur pied un nouveau gouvernement à l'issue d'élections sur fond de contestation de sa politique migratoire. Hier, juste après une seconde crise gouvernementale, Angela Merkel a subi une nouvelle défaite. Les députés de son parti, la CDU, mais aussi de son allié bavarois CSU, se sont ouvertement rebellés contre la chancelière en désavouant le chef du groupe parlementaire, en l'occurrence infidèle et proche d'Angela Merkel, au profit de qui ? Eh bien d'un inconnu. C'est une correspondance à Berlin signée Ludovic Piétenu.
Ce dont nous avons besoin, c'est d'action. Il faut une forme de sursaut vis-à-vis de l'extérieur ainsi qu'à la base du parti. Voici comment Ralf Brinkhaus, le nouveau président élu hier soir à la tête du groupe conservateur au Bundestag, résume la situation. En gros, il sanctionne les atermoiements de la chancelière dans sa gestion de ces derniers jours du cas Massen, le chef du renseignement intérieur, dont le limogeage a pris plusieurs jours et plusieurs réunions de crise. Plus généralement, Ralf Brinkhaus sanctionne l'été désastreux de la chancelière, dont les prises de bec répétées avec son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, ont offert un bien triste spectacle à l'électorat allemand, mettant chaque jour un peu plus en péril la fragile coalition en place depuis le mois de mars. Désormais, la question est combien de temps la chancelière va-t-elle tenir ? La gauche, Die Linke et les libéraux démocrates du FDP demandent à Merkel de procéder à un vote de confiance des députés. S'il venait à la lui refuser, le président de la République aurait alors 3 semaines pour dissoudre une assemblée élue il y a 1 an, quasi jour pour jour, et donc mener le pays à des élections anticipées.
La directrice du FMI, Christine Lagarde, a annoncé hier que l'Argentine et l'instance internationale étaient proches de parvenir à un accord sur le renforcement d'un prêt de 50 milliards de dollars sur 3 ans et dont Buenos Aires demande le réaménagement. Un message a priori encourageant donc et qui tombe à point nommé, en l'occurrence en pleine crise, alors que le pays est paralysé par une grève générale et que le patron de la Banque centrale argentine a lui subitement démissionné, invoquant des raisons personnelles. Au Brésil, le procureur général a demandé hier à la Cour suprême de suspendre l'enquête ouverte sur le président Michel Temer dans une affaire de corruption passive avec le groupe de BTP Odebrecht en 2014. Le ministère de la Justice souligne que le président dispose de l'immunité provisoire devant des poursuites pénales et que la constitution brésilienne interdit que le président soit poursuivi pour des actes antérieurs à son mandat. En mauvaise passe financière, le Rassemblement National ex-FN attendait aujourd'hui une décision cruciale dans son bras de fer avec la justice pour faire annuler la saisie de 2 millions d'euros d'aide publique ordonnée par les juges qui enquêtent sur les soupçons d'emploi fictif au Parlement européen. Finalement, la justice a réduit cette saisie à 1 million. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a donc confirmé l'ordonnance de saisie, mais en diminuant de moitié la somme demandée.
Effectivement, 1 million d'euros au lieu de 2 millions d'euros, moitié moins que ce qui avait été demandé en première instance. La chambre d'instruction a sans doute tenu compte des difficultés financières du parti de Marine Le Pen, mais sur le fond, la saisie a été confirmée. Maître Rodolphe Bosselu est l'avocat de Marine Le Pen.
C'est une première victoire. Je regrette simplement que la Cour ait en définitive stoppé son élan au milieu du gué. car à mon sens, la saisie en elle-même est un vrai sujet et un problème en soi. Parce que il s'agit de la saisie de l'aide publique au financement d'un parti politique. La Cour reconnaît d'ailleurs la mission constitutionnelle du parti politique, l'animation du débat démocratique et du pluralisme, et que la saisie qui porte sur une somme permettant l'expression de ce débat politique me semble être à soi seule constitutive d'une atteinte aux libertés publiques.
Cette somme demandée est une sorte d'avance sur une prochaine éventuelle condamnation. Des eurodéputés du parti d'extrême droite et certains collaborateurs sont poursuivis pour abus de confiance, faux usage de faux, escroquerie en bande organisée et travail dissimulé. Le Parlement européen estime le préjudice à 7 millions d'euros pour la période allant de 2009 à 2017. Mais Patrick Maisonneuve est l'avocat du Parlement européen.
Tout ça n'est pas terminé, je dirais que on est à une étape financière, mais le match financier, il se terminera le moment venu devant le tribunal, et là seront concernées notamment les personnes physiques qui seront probablement renvoyées devant la juridiction de jugement.
Le Rassemblement national a annoncé son intention de se pourvoir en cassation contre le principe même de cette saisie.
Merci Antoine Marette. Qui pour remplacer François Molins au poste de procureur de Paris? On sait depuis plus de 3 mois maintenant que celui qui était devenu le visage de l'antiterrorisme français doit quitter son poste d'ici le mois de novembre pour rejoindre la Cour de cassation. Sauf que le décret de nomination n'a pas encore été publié et curieusement, on a également appris en début de semaine que le ministère de la Justice avait lui lancé un nouvel appel à candidature pour lui succéder au parquet de Paris, alors même qu'au moins 3 magistrats avaient déjà candidaté. Bénédicte Robin, bonjour.
Bonjour.
Évidemment, les rebonds autour de cette nomination n'ont pas tardé à susciter des interrogations et en particulier la question de savoir dans quelle mesure l'exécutif ne chercherait pas à s'impliquer directement lui-même dans le choix du candidat idéal.
C'est toute la question que suscite ce nouvel appel à candidature alors qu'il y avait bien des candidats neufs, dont 3 noms en particulier qui circulaient de manière insistante. Sorte de shortlist établie par la garde des Sceaux. C'est normal, c'est son rôle en principe. Ces noms doivent ensuite être soumis au Conseil supérieur de la magistrature qui donne son avis à la même garde des Sceaux qui prend ensuite sa décision. Or là, aucun avis n'a été transmis et ce n'est pas du tout habituel. Et même un des noms de cette liste s'est retrouvé ailleurs. Marc Simamonti, procureur de Lyon, serait désormais pressenti pour la cour d'appel de Versailles. Un poste prestigieux par ailleurs. Mais là n'est pas le problème, car il y a bien un problème, souligne l'Union syndicale des magistrats, qui dit n'avoir jamais vu cela, que l'exécutif s'immisce autant. Y aurait-il un choix du prince, s'interroge de son côté le syndicat de la magistrature, supposant que c'est la main d'Emmanuel Macron qui raye les noms et en inscrirait d'autres, alors que ce ne devrait pas être dans ses prérogatives. Déjà que l'indépendance du parquet vis-à-vis du pouvoir politique est souvent questionnée, cela n'arrangerait rien car le prochain procureur de Paris arriverait nécessairement chargé de suspicion puisque sa nomination sous-entendrait qu'il a été validé par le président, qu'il a plu. Et pourquoi donc plaît-il, sachant, vous l'avez dit Thomas, que le procureur de Paris incarne l'antiterrorisme en attendant la création d'un possible parquet spécial, mais aussi nombre d'autres affaires. Et en ce moment, certaines sont sensibles pour le gouvernement. Une enquête sur la ministre de la Culture Françoise Nyssen et ses travaux quand elle dirigeait Actes Sud. Une autre sur la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, dans l'affaire dite Business France. Et puis évidemment, la bien fâcheuse affaire Benalla.
Merci Bénédicte Robin. La fameuse confiance des ménages a fléchi en France au mois de septembre. Elle atteint même son plus bas niveau depuis près de 2 ans et demi. Jean-Marc Chardon, bonjour.
Bonjour.
Manifestement, la légère dissipation des craintes des Français liées au chômage ne permet pas de compenser donc leur pessimisme accru sur d'autres questions et notamment celle de l'évolution de leur niveau de vie.
Oui, leur niveau de vie, qui est fait de quoi? Eh bien de la situation générale de ces ménages, leur situation financière, leur pouvoir d'achat, leur capacité à épargner. Et le moral révèle à la fois leur situation actuelle et ce que les ménages envisagent, espèrent ou craignent. Alors on voit qu'il est à la baisse, ce moral, sur les derniers mois. Les ménages craignent surtout la hausse des prix, avec l'impression qu'ils ont augmenté depuis 1 an, et c'est le cas. Ils pensent que ça va durer, que ça va éroder leur pouvoir d'achat, et tout cela ne les encourage pas à épargner non plus. Alors que les perspectives de croissance, avec le ralentissement en cours, les confortent dans cette opinion, c'est probable, et pourrait même s'amplifier, car en fait, cette baisse de morale, elle se repère depuis le milieu de 2017, quand bien même, elle n'est pas uniforme non plus. La peur du chômage, elle recule par exemple. Alors, comment faire repartir le moral des ménages? A priori, ce serait possible grâce à un regain de pouvoir d'achat. Oui, c'est la principale demande qui apparaît, ce pouvoir d'achat qui a progressé encore l'an dernier, mais moins rapidement qu'en 2016. Cette année, il est grignoté par la montée des coûts énergétiques et les transports. Un pouvoir d'achat que le gouvernement affirme vouloir doper, rendre du pouvoir d'achat par une nouvelle politique fiscale. On le sait encore, lui faut-il maintenant persuader et puis aussi en prendre les moyens.
Merci Jean-Marc Chardon. Et puis le moral des profs, lui aussi, n'est pas très bon. Les trois principaux syndicats de l'éducation nationale ont appelé les personnels à faire grève le 12 novembre. Ils protestent contre la suppression de 2650 postes dans les collèges et les lycées prévus par le gouvernement l'an prochain. On termine avec un mot rapide de météo. Le temps restera encore aujourd'hui très largement ensoleillé sur l'ensemble du pays. Les températures en légère hausse, elles seront comprises cet après-midi entre 18 et 29 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.